Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes dans le studio de Chartres avec notre cher abbé Jacques Potier. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes originaire de Rélois.
Eh oui.
Vous n'êtes pas Chartres, mais vous êtes originaire du département et vous êtes par contre licencié en théologie de la Grégorienne à Rome.
C'est ça, oui.
Vous avez fait un beau passage là-bas, plusieurs années sans doute.
2 années après mon ordination, envoyé par mon évêque, Monseigneur Michon à cette époque-là.
Et vous êtes ordonné prêtre en 1972 pour le diocèse de Chartres.
Voilà,
vous
dans la cathédrale. Oui,
vous avez toujours été curé
dans le diocèse, voilà.
Et actuellement, vous êtes...
Chapelain
et comme chanoine de la cathédrale de Chartres, pour
cela,
le plus grand plaisir des paroissiens. Et vous venez parfois célébrer la messe grégorienne à 9h du matin à la cathédrale de Chartres. Et nous voilà déjà dans notre sujet, justement, parce que je voudrais parler avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre émission qui parle de l'histoire et de l'art, un peu de l'art de la liturgie, c'est aussi le culte de Dieu public, célébrer la messe, ou toutes les questions que retournent un peu autour de vivre en catholique aujourd'hui. Quelles sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui? Alors, commençons par le commencement. Est-ce qu'on peut être catholique ou chrétien tout court sans aller à la messe? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, il n'y a pas la messe toujours. Oui. En ville, c'est plus facile. Est-ce que c'est toujours une obligation d'aller à la messe? Vous connaissez cette phrase, « je suis chrétien, mais pas pratiquant ».
Oui. Oui, c'est une question classique, on peut y répondre de multiples façons. Il est vrai que bien des gens ont une attitude chrétienne sans aller à la messe. Il est évident que l'ouverture aux autres, un esprit évangélique, comme on dit maintenant la tolérance, mais plus profondément aider, servir, avoir un esprit ouvert, ce sont des qualités évangéliques. Cependant, votre question est précise, vous dites, peut-on être catholique et sans aller à la messe? Alors, si je prends le terme catholique dans le sens originel, qui veut dire totalement, si je prends totalement le mystère du Christ, je dis non, c'est pas possible d'être catholique sans aller à la messe, parce que l'évangile et le Christ nous dit « je suis le pain de vie ». Et puis, on pourrait aussi préciser que dans la Révélation, dans l'Ancien Testament, l'importance du jour du Seigneur, le Shabbat, a été repris par le Christ, car on peut penser que Jésus a de fait repris toutes les institutions de l'Ancien Testament pour les achever, pour les dépasser. Mais le temple, bien sûr, il est dépassé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signe d'église. La loi, elle est dépassée, mais ça ne veut pas dire que les 10 commandements n'existent pas. Le Shabbat est dépassé, le jour du Seigneur est dépassé, mais il existe toujours. Et le Christ est ressuscité le jour du Seigneur. Et donc, tu sanctifieras le jour du Seigneur reste une réalité fondamentale, structurante du chrétien, et je dirais un chrétien accompli, catholique, dans le sens de kathos, totalement, nécessairement, il doit célébrer le culte du Christ, on ne peut pas être catholique sans aller à la messe. Je dirais même que la semaine doit aboutir au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'est pas une matière à option, c'est une réalité fondamentale qui structure la vie chrétienne. Pour dire vraiment catholique, mais comme je le disais au début, bien sûr, on peut avoir des attitudes chrétiennes sans aller à la messe. Mais dans ce qu'on veut célébrer du Christ, suivre Jésus, c'est suivre Jésus dans sa totalité. On ne peut pas prendre une partie de l'évangile, des attitudes qui seraient simplement altruistes, anthropomorphiques, de sympathiques, qui ont une valeur, qu'un athée d'ailleurs peut réaliser. Mais le christianisme, c'est un appel à un dépassement, à une célébration de Dieu. Tu adoreras un seul Seigneur, et nous le vivons particulièrement dans l'Eucharistie.
Donc il y a la prescription de la messe dominicale, mais effectivement, il ne suffit pas d'assister à la messe et ensuite, toute la semaine, vivre... En parfaite antithèse du bon chrétien, en ne respectant pas les 10 commandements. Donc c'est une totalité, c'est un tout.
Un tout, et c'est très juste, c'est la vie qui compte. Hein. On insiste toujours, c'est une manière de vivre qui est importante, mais il faut aller à la source. Et l'exemple du Christ, de la vie donnée, c'est dans l'Eucharistie. Et donc se brancher sur la réalité qui va nous aider à aimer, profondément en Dieu, parce que bien sûr on peut aimer notre prochain, enfin, nous ouvrir aux autres sans aller à la messe. Mais si on veut aimer comme le Christ nous a demandé, un dépassement de notre égoïsme, si on veut aimer dans le courant du Seigneur, en dépassant justement tout ce qui est recherche de soi, nécessairement, le Christ doit passer dans notre cœur et le sacrifice du Christ est pour nous le modèle du don de soi. Et donc, non seulement c'est un modèle que nous essayons de vivre dans l'Eucharistie, mais nous recevons même la grâce, par la communion eucharistique, de vivre cet amour des autres. Alors dire « moi j'aime les autres, j'ai pas besoin, je m'occupe des autres, j'ai pas besoin d'aider à la messe », ça fait bien comme formule, mais profondément c'est pas possible. Car si on veut aimer les autres totalement, il faut les aimer dans l'esprit du Christ. Or, c'est lui qui nous donne la grâce de le vivre. Et dans l'Eucharistie, c'est possible.
Si nous sommes à Chartres, nous avons plusieurs lieux où est célébrée la messe le dimanche, mais à la campagne, c'est difficile. Il y a plus de prêtres, ils ont plusieurs cures à administrer. Donc, comment est-ce qu'on peut sanctifier le dimanche? Déjà, en ne travaillant pas, j'imagine, ne pas faire de gros travaux. Les gens aiment le jardinage, je pense qu'on peut tant que ça ne déborde pas. Mais comment est-ce qu'on peut sanctifier le dimanche?
Oui.
Quand on n'a pas la possibilité à la messe, je connais plein de villageois qui sont dans cette situation-là.
C'est vrai, mais vous avez pointé une chose qui est quand même aussi importante, parce que le jour du Seigneur, ce n'est pas uniquement la messe. Normalement, ça comprend le repos dominical, et dans la lettre que le pape Jean-Paul II, sur le jour du Seigneur, il y a une lettre apostolique là-dessus, il signale cela, c'est que, si vous voulez, c'est un arrêt pour la vie familiale, c'est un arrêt, je dirais, naturel, qui permet à l'être humain de respirer et de donner une place au Seigneur. Alors, c'est vrai, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand on fait le catéchisme aux enfants, qu'on leur dit qu'il faut aller à la messe, les parents sont divorcés, il y en a un qui habite à Paris et l'autre qui habite à Chartres, ils vont d'un dimanche à l'autre dans des lieux différents. L'enfant fait ce qu'il peut si les parents ne sont pas pratiquants, bien sûr. Mais on peut, comme vous le dites, marquer le jour du Seigneur. Moi, je disais aux enfants, tu oublies tes parents, tu n'es pas, il n'y a pas de faute, tu ne peux pas aller à la messe, mais tu tends vers cela et tu peux prier chez toi. C'est un jour, c'est le jour du Seigneur. On peut s'unir spirituellement aux messes qui sont dites au loin. Et il peut y avoir des gens dans les campagnes qui n'ont pas de messe, évidemment, dans leur église. Bien que maintenant, on met de plus en plus des chrétiens à ouvrir les églises. Et il peut se faire que l'église étant ouverte, des chrétiens se rassemblent le jour du Seigneur, même s'ils n'ont pas l'Eucharistie. Vous savez, en Corée, pendant des décennies, il y avait des chrétiens qui ne pouvaient pas avoir de prêtre. Ils se réunissaient sur le rivage et le dimanche, et tournaient vers l'Europe en attendant le prêtre qui viendrait leur dire la messe. Mais ils célébraient le jour du Seigneur. Et vous savez qu'ils ont été bénis du Seigneur, particulièrement par une floraison de chrétiens et de prêtres qui sont venus comme missionnaires, je pense, dans ce pays de Corée. Mais pour revenir en France, c'est vrai que on peut honorer le jour du Seigneur aussi en se déplaçant, parce qu'il y a des gens qui vont aller à l'auto, faire l'auto ou la tombola, ils vont faire 10 kilomètres, ils peuvent quelquefois faire 4 kilomètres aussi pour aller à la messe. Hein. Mais aussi, lorsque c'est trop loin, eh bien, on peut sur place honorer le jour du Seigneur. De toute façon, on peut l'honorer.
Alors, dans la campagne en Forêt-Noire, je me rappelle, il y avait les vieilles dames qui tous les jours se rassemblaient dans l'église pour dire le chapelet. C'est une manière, effectivement, de renouer avec une tradition très ancienne, de dire le chapelet. On raconte au Japon où tous les missionnaires avaient été tués. Quand les missionnaires sont réapparus 200 ans après, les catholiques s'étaient maintenus en récitant le chapelet et en se donnant le sacrement du mariage et du baptême. Mais je voudrais aussi dire à nos chers auditeurs qui vous connaissent peut-être pas tous, pas encore, que vous avez rédigé un livre, Les chemins de l'amour, justement, oui. Qui est un livre de piété, de prière.
De prière et de spiritualité, spiritualité. Hein, et de théologie aussi. Là, par exemple, je lisais... relisez ce que j'avais écrit sur le sacrifice de Christ à la messe. Bon, il y a une réflexion de fond qui peut aider, puis des documents, oui, c'est un petit chemin, un parcours, ça peut aider quelques personnes à faire un chemin spirituel, oui. Mais
c'est très important parce que de nos jours, on n'a plus de missel. Autrefois, dans le missel, il y avait toujours les prières du matin, le bénédicité, les prières du soir. Beaucoup de gens aujourd'hui ne trouvent plus ces prières parce que les missels n'existent plus.
Oui et non, les missels n'existent plus. Oui. Si, ils existent toujours. Hein, on peut prendre le missel année A, année B, année C. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, soit priant en église, soit parole et prière, soit magnificat, qui ont dans, toutes les prières, y compris les laudes. Et je dirais, c'est d'une richesse quand même étonnante. Hein, mais c'est par abonnement par mois. Mais il existe aussi le missel dans l'église encore d'aujourd'hui, qui rappelle le missel d'autrefois. Mais les gens préfèrent l'abonnement. Mais il existe les prières encore.
Oui, parce que quand on arrive à la maison, on lit. C'est comme les revues de jardinage.
Oui.
On ouvre le magazine, la publication, on découvre comme si c'était neuf.
C'est cela.
Et l'attrait de l'abonnement.
Oui, et il y a une richesse parce qu'il y a toutes les lectures. Et puis, il y a aussi, je pense, à Parole et Prière, parce que moi, je suis abonné plutôt à cette... Ce n'est pas une revue, hein, c'est un petit livret. Eh bien, il y a vraiment les lots des textes, même la vie des saints, des choses très, très intéressantes. Oui.
On va faire une petite pause musicale. Retenons après cette première partie l'importance de la prière quotidienne, si possible, même courte, et l'importance...
On pourra reprendre cela, c'est la prière et le chapelet, si vous voulez, parce que c'est
très bien, une petite
une
pause musicale.
Merci.
Il me semble qu'on a entendu une pièce de Hildegarde de Bingen, cette visionnaire du XIIe siècle qui travaillait, qui s'intéressait aux pierres, qui guérissent, à l'alimentation. Mais l'alimentation spirituelle, ça reste toujours la prière. Et vous voudriez peut-être, monsieur l'abbé Potier, nous parler un peu plus du chapelet, de l'importance du chapelet.
C'est-à-dire, par rapport à ce que vous disiez juste avant, qui était que des gens ne pouvaient plus tellement participer à l'Eucharistie, et donc ils disaient le chapelet, est-ce que ça a une valeur ? Il est vrai que la participation à l'Eucharistie, c'est de suivre toutes les prières. Mais en dehors, peut-être, de l'Eucharistie, beaucoup de gens retrouvent actuellement l'importance du rosaire. Et je pense à cette magnifique encyclique ou motu proprio du Saint-Père Jean-Paul II. En le 16 octobre 2002, il avait inauguré l'année du rosaire. Et dans cette lettre, il explique que c'est une vie contemplative qui peut être nourrie par ce rosaire, et que pour lui, le chapelet est une prière contemplative. Et il y a de nombreuses pages de réflexion sur le fait que c'est une prière christologique. Ça permet aux chrétiens de reprendre toute la vie de Jésus, depuis l'Annonciation jusqu'à l'Assomption de Notre-Dame, avec les mystères lumineux, justement, en plus, qui permettent de suivre le Christ dans le mystère du baptême, du Cana, dans sa prédication pour inviter à la conversion, et puis donc la transfiguration et la Sainte Cène. Donc chaque dizaine nous met près du cœur du Christ, et les gens qui prennent simplement les trois grands mystères particuliers, de mystère joyeux, mystère douloureux et mystère glorieux, eh bien, ils pensent à la passion du Christ tous les jours, et donc le cœur du « Je vous salue Marie » étant Jésus que tu as porté, Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui a été flagellé, couronné d'épines, Il nous est donné, alors prie ce Jésus pour nous maintenant. Il y a, je dirais, ça berce intérieurement l'âme et ça lui permet de s'unir au cœur du Christ. Je crois que c'est une prière, au-delà de l'aspect purement répétitif qui a été dévalué par, qu'on disait, des braves dames pieuses qui disaient comme ça, d'une façon mécanique. Mais au-delà de l'aspect mécanique, je suis frappé que les grands saints, y compris les papes, ont pris souvent comme méthode de prière cette façon très simple de prier sans mettre de côté l'appel de Marie à Fatima, à Lourdes, dans toutes les apparitions reconnues par l'Église, comme si, comme une mère, elle savait que nous avons besoin d'être bercés intérieurement, de reprendre les méditations de l'Évangile à travers son cœur, à travers sa propre méditation.
Fatima, vous avez bien fait de rappeler l'importance de Fatima, de cette apparition mariale où la Vierge aurait dit que le chapelet, c'est le dernier moyen qui nous reste avec la dévotion du premier samedi du mois.
Oui.
Si les personnes qui nous écoutent cherchent une messe, je sais qu'il y en a à Chartres, à l'église Saint-Aignan, une messe du premier samedi, qui, c'est une dévotion de notre époque.
Et bien aussi, à la crypte, on dit la messe tous les premiers samedis du mois, 11h45, et beaucoup de gens...
Et je sais que vous faites le chapelet aussi.
Oui, le chapelet, voilà, auprès du voile. Et donc, je crois que cet appel de Notre-Dame, c'est vraiment... un appel à un approfondissement de notre vie spirituelle, oui, elle conduit au Christ par le chapelet.
Et Radio Grand Ciel diffuse le chapelet quotidiennement à 15h, 15h30. Oui, il faudrait que j'apprenne le programme quand même par cœur, mais je l'écoute souvent en voiture. Alors, on a rappelé la prière, l'importance de la prière, qui peut remplacer, en l'absence d'une messe, la sanctification de dimanche, oui, si on ne peut pas se rendre à une Eucharistie. Alors, justement, la messe, alors est-ce que la messe est une fête? Est-ce que c'est un sacrifice? Et si c'est une fête, je m'habille comme je veux. Si c'est plutôt un sacrifice, il faut peut-être que j'en tienne compte en me rendant à l'église.
Alors, votre question est un peu subtile parce que, si j'entends bien, vous dites, est-ce une fête ou un sacrifice?
Ou les deux.
Moi, je dirais que si je regarde l'ordo, enfin, le calendrier liturgique, on voit, il est marqué fête, il y a même solennité. Donc, dans cet aspect de fête, c'est-à-dire qui nous lie à l'église du ciel, ça restera toujours. Mais fondamentalement, c'est vrai que le mystère eucharistique, c'est le renouvellement, quoique le terme est un petit peu difficile, hein, la réactualisation du sacrifice du Christ. On dit souvent, c'est la mémoire, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Personnellement, je préfère faire mention de ce qui est dit dans la première prière eucharistique en faisant mémoire de la passion de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le mémorial aussi de la passion. Et certains spirituels, je pense à Saint François de Sales, Padre Pio, revivaient déjà, par exemple, au pied de l'autel, dans le rite pénitentiel, un peu ce qui a été vécu à l'agonie, porté aussi à l'offertoire, Jésus qui est exposé, et la parole de la consécration liée à la crucifixion. Oui, il y avait cette notion de célébration de la passion. Et c'est vrai que soit dans le rite extraordinaire, où il y a beaucoup de signes de croix, donc c'est, je dirais même les ornements signifient l'importance de la croix, que dans le rite ordinaire, on signifie, prions ensemble, afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est quand même le sacrifice, bien sûr, d'action de grâce, mais aussi de propitiation, le sacrifice d'expiation. Il faut prendre les termes tels qu'on doit les prendre, parce que c'est vraiment la croix du Seigneur, d'ailleurs. On doit mettre une croix avec Jésus en croix près de l'autel. C'est dans les normes liturgiques. Personnellement, je trouve un peu curieux qu'on ne veut absolument pas mettre le crucifix ou le Christ sur la croix parce que c'est la résurrection. Ben oui, mais c'est aussi le mémorial de la passion et donc il faut aussi qu'on ait une visibilité de cette réalité-là.
Alors, enfant, je voyais les petites images de dévotion où on voit le prêtre célébrer la messe et puis au moment de l'élévation, le Christ descendre de la croix et s'approcher de l'hostie, ou plutôt être l'hostie. Et cette image, je pense que c'est ce que vous venez de dire. C'est important, lorsque le prêtre célèbre la messe, d'avoir le Christ sur la croix en face de lui. Alors cette image-là, je l'ai retrouvée dans un livre récent qui s'appelle « Ils ont choisi le Christ, la conversion des musulmans vers le christianisme ». Et il y a des musulmans qui voient, qui assistent à la messe et qui voient le Christ au moment de l'élévation. descendre de la croix. C'est assez remarquable. On dit aussi que Franz Stock, le prêtre qui est enterré à Chartres dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochèvre, au moment de l'élévation, il s'arrêtait, il murmurait, il parlait, il s'arrêtait dans un mouvement. C'est comme s'il parlait avec le Christ sur la croix. Mmh. Encore qu'on n'a pas beaucoup de textes qui le relatent, mais on sait que c'était un côté très mystique qu'il avait. Donc c'est un sacrifice. Mais comment est-ce qu'on s'habille pour aller à la... Si je vais à une fête, je m'habille de façon festive. Si je suis invitée quelque part, je m'en dimanche 17 ans autrefois. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un certain respect ou un code vestimentaire qu'il faudrait redécouvrir ?
Je dirais code peut-être pas, mais enfin une tenue décente déjà, ce qui n'est pas forcément évident. C'est bien quand il fait très chaud comme actuellement, ce n'est pas toujours facile. Mais quand même, oui, vous faites allusion à l'habillement, pourquoi pas ? Lorsqu'on va à une grande cérémonie, qu'on veut honorer des gens, bon, on fait un petit peu attention. Il n'y a pas cette négligence de banalisation. Je crois qu'on a besoin, de fait, de signes aussi extérieurs, dans l'attitude, dans la façon d'être. Oui, puisque vous le soulignez, volontiers, je souscris. Tout en étant large d'esprit, il faut quand même aussi une certaine tenue extérieure. Ça compte, oui, parce que les sentiments intérieurs se montrent par des réalités extérieures. Le prêtre, lui, il a... il prend peut-être pas toujours le cordon, mais enfin, il y a l'aube, il y a l'étole, il y a la chasuble, et puis on voit en face des chrétiens dont on dit qu'ils célèbrent, qu'ils célèbrent avec le Christ, qu'ils sont acteurs, c'est complètement opposé, quoi. C'est vrai que là, il y a une disjonction, pas toujours très, très claire, sans se rendre compte qu'ils vont aller lire, en t-shirt, à bretelles, et puis le prêtre, lui, voilà, il est comme ça.
Donc peut-être, comme en Italie, on ne peut même pas visiter une église sans se couvrir les épaules, redécouvrir un peu le sens du sacré.
C'est évident.
Si c'est possible.
Puisque vous faites allusion à cela, j'étais à Saint-Malo, pour être précis, à la cathédrale, et c'est un jeune prêtre d'aujourd'hui, Et alors, je vois à l'entrée, une pancarte à l'extérieur, parce que j'ai parlé avec lui, mais je dis, vous mettez une pancarte à l'extérieur, tenue, descente, se couvrir, enfin, c'est bien formulé, au lieu de respect. Elle me dit, oui, parce que si je mets à l'intérieur, c'est difficile, les gens, les faire sortir. Et j'ai ramené du Cambodge, dit-il, des châles avec des petits damiers rouges, des petits pompons, vous savez, ça fait un petit peu... Et je présente ça aux jeunes dames, vous parliez des épaules, et comme ça, assez joli, elles acceptent assez volontiers. Ça marche bien. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Nous, faut reconnaître qu'à la cathédrale, jusqu'ici, on n'a pas pu grand-chose. Et ça viendra peut-être. Mais moi, je l'ai dit explicitement. Des églises savent le faire, d'autres ne savent pas le faire. Il faut le faire avec tact, mais signifier qu'il n'y a pas que les synagogues, que les mosquées, qui sont d'ailleurs très, très strictes, que nous, il n'y a rien. Voilà, c'est la liberté, voilà. Mais je crois que c'est pas très sain, c'est pas très bon, et ça produit des effets négatifs, des gens vont ailleurs.
Une petite pause musicale pour méditer ceci. D'aborder le thème de de s'endimancher, pour aller à la messe, le respect vestimentaire quand on rentre dans un lieu de culte. La liturgie, c'est un art. Le prêtre, il est obligé pour la liturgie de s'habiller d'une façon particulière. Il vient pas en sandales. Je n'ai jamais vu un prêtre célébrer la messe en sandales, mais peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, peut-être par respect aussi pour le prêtre, c'est bien de se couvrir un tout petit peu. On ne demande plus aux femmes de se couvrir la tête. Je suis la première à m'en réjouir, parce qu'en été, on a très chaud, même sous une mantille. S'il fallait le faire, je pense que je le ferais, par respect du lieu. Ouais. Comme vous dites, quand on rentre dans une mosquée, on est obligé de se déchausser. Quand on va dans une synagogue, les hommes se couvrent aussi la tête. Je trouve que c'est très bien de respecter les prescriptions d'un lieu sacré. Alors, on parlait un peu de la messe, on parlait de la prière. La messe peut être célébrée aujourd'hui de deux formes différentes, qu'on appelle extraordinaire et ordinaire. Et le latin, autrefois, jouait un grand rôle comme langue de célébration, le latin. Alors, bon, aujourd'hui, on dit le latin, je n'y comprends rien. Si la messe est célébrée en latin, je suis coupée des textes. Comment est-ce que je fais? Ça m'ennuie. En plus, le chant grégorien, c'est tout en latin également. C'est difficile, la notation. Quelle est pour vous la place que peut prendre le latin de nos jours avec le souci qu'a eu l'Église de s'approcher des fidèles et d'utiliser la langue vernaculaire pour faire participer les fidèles plus à la célébration.
Il est évident que la langue vernaculaire apporte des qualités d'approche, de compréhension du peuple et de participation du peuple. Et si la réforme liturgique a permis cela, ça a une valeur. Maintenant, il ne faut pas en faire un absolu, comme on ne peut pas faire un absolu du latin, mais le latin a aussi une importance, non seulement dans le rite extraordinaire, dans la forme extraordinaire, parce qu'il n'y a qu'un seul rite, non seulement dans la forme extraordinaire, mais dans la forme ordinaire. D'ailleurs, la messe grégorienne est en latin, je la célèbre quelquefois. On prend
à 9h dans la cathédrale. 9h,
on prend les canons de la forme ordinaire. Et je trouve qu'il y a des gens avec le grégorien qui entrent dans cet aspect, même s'ils ne comprennent pas tout. Il y a cet aspect du mystère, qui est de la sacralité, des mots qui sont à travers le latin, qui ont une valeur. Langue de l'Église, dit-on, mais enfin, quand on me dit cela, je dis, mais Jésus, lui, il a parlé araméen, il a parlé certainement grec, puisque c'était la langue, la koiné habituelle. Je pense qu'il parlait latin face à Pilate et tout cela, donc nécessairement, beaucoup d'auteurs soutiennent cela. Mais c'est surtout l'Église qui a, justement, à travers le latin, la possibilité de tous les textes, que ce soit les encycliques ou le droit canon, il y a un texte de référence ensuite qui peut être traduit dans différentes langues. Et pour revenir à la messe, je pense que, surtout dans la forme extraordinaire, bon, il y a cet aspect de secret du mystère, puisque les paroles sont même dites à voix basse. C'est toute une autre conception, donc je dirais spiritualité. On entre dans le mystère. Le but n'est pas de comprendre et de participer d'une façon explicite. La participation est beaucoup plus intérieure au mystère, au sacrifice du Christ, plutôt que des agents actifs qui se déplacent, qui soient là pour montrer leur participation. Je crois que les deux réalités se complètent et je trouve que le latin aura toujours sa place. Moi, je célèbre presque toujours en langue vernaculaire, mais bien volontiers, quand j'ai l'occasion, je rentre facilement dans cet aspect du latin, qui revient d'ailleurs, qui revient de plus en plus. Et chose même qui m'a étonné, j'ai écouté l'autre jour, il y a même dans Radio Vatican, vous savez, toutes les news, il y a ça, on dit les nouvelles, mais en même temps, il y a une Radio Vatican est donnée en latin. Les nouvelles du monde sont données en latin. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Alors j'ai écouté, ils sont doués, ils parlent.
Ça sera votre mot de la fin. Donc écoutons Radio Vatican en latin.
Et en français aussi quand même.
On reprendra le fil de notre entretien dans une prochaine émission. Monsieur l'abbé Potier, merci beaucoup d'être venu dans le studio. Merci à Simon à la technique et à très bientôt.
Merci beaucoup madame, c'était avec joie. Merci beaucoup.